Face à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Pour bien démarrer l'année, on s'attaque au premier repas de la journée, le petit déjeuner, le breakfast comme disent les Anglais. Alors on entend tout et son contraire sur son importance. Une chose est sûre, il se transforme au fil des années. On va remonter le temps ce matin, essayer de comprendre l'influence aussi des industriels sur le petit déj. Avec notre invité, Gilles Fumet, qui est géographe de l'alimentation et chercheur au CNRS et auteur de Feu sur le breakfast aux éditions Terre Urbaine. Bonjour Gilles Fumet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez pris votre petit-déj ou pas alors?
Non, pas du tout. Non.
Vous n'êtes pas petit-déj, hein?
Pas du tout.
Alors Feu sur le breakfast, pourquoi breakfast et pas petit-déjeuner déjà?
Alors parce que justement, il est question surtout de ce repas qui a été déclaré par un certain nombre de nutritionnistes comme le plus important de la journée et qui est ce repas anglo-saxon et obligatoire pour les gamins qui vont à l'école, pour les gens qui vont à l'usine et pour lequel il y a une industrie qui a préparé quelque chose. C'est très différent de ce qu'on appelait le petit déjeuner d'autrefois qui était donc ce moment au cours duquel on rompait le jeûne, voilà le déjeuner.
Mais c'est ça l'étymologie. C'est ça, déjeuner. Voilà. Et breakfast, c'est ça aussi, c'est cassé.
Voilà, sauf que breakfast, c'est une invention donc anglaise, comme vous l'avez dit, américaine même, qui s'est enrichie par l'Amérique et qui s'est glissée dans notre ordonnancement des repas. Parce que donc nous avions en gros deux repas par jour jusqu'au XVIIIe siècle.
C'est ça qui est passionnant, vous le racontez nous alors dans le livre.
Bah oui, voilà, hein. Je montre par exemple Napoléon, même Napoléon ne mangeait que tard le matin, alors qu'il était à lève-tôt à 5h du matin, il était debout. Mais il ne mangeait qu'à 9h, 9h30 du matin, Louis XIV pareil. Et les paysans, les moines, tous ces gens-là qui se levaient tôt, parce que c'était une vie qui était calée sur en gros le
travail, la prière et deux repas.
Voilà, ouais. Et puis les jours qui se lèvent. Et qui se couchent. Donc, on vivait là-dessus. Et puis, sont arrivées les boissons tropicales, donc thé, café, chocolat, en fait, sont arrivées progressivement à partir du 17e, 18e siècle, et dans les couches plutôt aisées, où elles ont séduit plutôt les femmes qui étaient des personnes qui n'aimaient pas trop tremper leur...
Leur pain dans la soupe.
Dans la soupe et puis surtout dans le vin.
Oui.
Puisque la tradition de boire de l'alcool, elle a duré même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire même après, puisque quand le Premier ministre des années 50 veut mettre le lait dans les écoles, c'est en particulier pour limiter l'alcoolisme le matin, parce qu'il y avait des gamins qui prenaient un bol de lait dans lequel il y avait de l'alcool.
Quand Mendès France a mis le lait à l'école,
exactement,
vous voulez dire, c'est ça.
Mendès France, c'est ça.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on déjeunait en général vers la fin de matinée. Le souper, c'était plutôt vers 17h, 18h. Voilà, mais il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont connu leurs parents, leurs grands-parents paysans, prendre un café le matin en se levant. Moi, j'ai vu mon grand-père faire ça. Il prenait son café le matin très tôt, vers 5h30, 6h, la traite des vaches, le travail à la ferme. Et comme il disait, vers 9h30, quand même, il ressignait. C'est-à-dire que là, il mangeait du hareng fumé ou une tartine de lard. Mais il y avait quand même un déjeuner. Donc, il y avait un mini petit-déj quand même.
Non. Alors, le repas du matin, il a toujours existé. Mais il avait lieu en matinée. Voilà, effectivement, le déjeuner. Et le dîner qui était... Le repas qu'on prenait à la 10e heure, le dîner, quand vous vous leviez à 6h du matin, le dîner, c'était 16h. Quand vous vous leviez à 7h, c'était 17h. Donc, c'était ça l'idée. Donc, le repas du matin, il est nécessaire parce que, je l'explique dans le livre, nous avons un système hormonal qui fait que le matin, nous avons l'hormone du stress qui nous réveille, qui, en quelque sorte, nous aide à ressortir des vapeurs du sommeil pendant les 3 heures qui suivent notre lever, le cortisol.
Mais pas forcément un gros banquet. C'est ça que vous dites, en fait.
Voilà, donc c'était la collation. C'était la collation.
Vous avez pris un petit déj, Olivier?
Non, alors moi je fais partie de ceux qui n'en prennent pas du tout. Et c'est vrai que je suis un peu perturbé parce que j'ai entendu dire, les nutritionnistes, le petit déj, c'est le repas le plus important de la journée. On nous disait, le matin, il faut manger comme un roi, à midi, comme un prince, et le soir, comme un pauvre. Et moi, je saute totalement le petit déjeuner. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une tendance à dire que faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent, de sauter le petit déjeuner,
16 heures entre deux repas,
est plutôt bon pour la santé.
Ben, tout à fait. Comme je suis géographe, j'ai travaillé sur les petits déjeuners en Europe. Et là, je me suis aperçu que, entre l'Allemagne et l'Italie, il y avait un véritable fossé qui était que les Italiens ne prennent pas de petit déjeuner, ils prennent juste le fameux café dont vous parlez, là, de votre grand-père, le ristretto. Et puis pour ceux qui ont vraiment besoin dans la matinée de quelque chose, on descend au bar, prend un cornetto avec un peu de crème dedans. Voilà, mais ça, ce n'est pas la majorité. Et puis les Allemands, alors,
ils mangent des saucisses.
Les Allemands qui, eux, alors, mangent énormément, mais parce que le soir, ils mangent peu. Vous voyez, il faut bien mettre le petit déjeuner dans l'ensemble des repas d'une journée. Voilà. Et si les Italiens n'en prennent pas le matin, c'est parce qu'ils ont gardé leur grand repas familiale, qui est la cena, qui est le soir.
Votre livre s'appelle « Feu sur le breakfast ». Le breakfast, c'est le petit-déj anglais. Si on regarde bien, c'est peut-être celui qui est presque quand même le plus équilibré, parce qu'il y a des protéines, il y a du gras, il y a du jambon, il y a un petit peu de glucides aussi. Notre petit-déj français, qui est quand même tartine, beurre, confiture, dans le meilleur des
croissant,
cas.
Croissant, pain au chocolat.
Pain au chocolat, viennoiserie, céréales, c'est une bombe glycémique, hein, c'est que
tout
du sucre. Hein.
Pour la qualité nutritionnelle de ce breakfast, j'ai presque rien à redire, en quelque sorte. Mais la seule chose, c'est qu'il arrive beaucoup trop tôt. Parce que notre pic de cortisol, il est au moment où on se lève et on le perturbe par un petit déjeuner qui est complètement aberrant.
Charlotte. Oui, c'est ça. Moi, je ne mange pas non plus le matin, non seulement parce que je n'ai pas faim, mais moi aussi, oui.
Voilà.
Non seulement parce que je n'ai pas faim, que je n'ai pas le temps, souvent. Et aussi, du coup, je suis un bec plutôt salé, comme on dit, et effectivement prendre plus de temps le week-end pour prendre carrément un brunch en fin de matinée avec des choses peut-être plus qui ressemblent au petit déjeuner à l'anglaise.
On va sortir les œufs brouillés. Alors. Ne bougez pas, les amis, entre les céréales et les jus de fruits sucrés, l'industrie a chamboulé les ingrédients du petit-déj. Quel rôle joue-t-elle vraiment? Sommes-nous dépendants? On en parle juste après ça avec Gilles Fumet. Bon samedi matin sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Quel rôle joue l'industrie dans notre façon de petit déjeuner? On se pose la question ce matin avec Gilles Fumet, géographe de l'alimentation, chercheur au CNRS et auteur de Feu sur le breakfast aux éditions Terre Urbaine, avec Charlotte Langrand et Olivier Pouls, vous l'avez entendu, qui ne prêtent pas de petit-déj. Alors, ami boulanger, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de baguettes et de pain au chocolat et de viennoiserie, au contraire. Hein, mais on dit qu'il faut bien mesurer et choisir le moment pour la manger,
exactement.
En gros, Gilles Fumet.
Hein. Exactement, c'est ça. On ne va pas mettre sur le tapis tous les boulangers de France, mais on va simplement leur rappeler que, effectivement, le meilleur moment pour déguster leur baguette, c'est un peu tard dans la matinée et puis dans le reste de la journée. Alors, quant aux viennoiseries, effectivement, là, on est dans quelque chose d'un peu plus de l'ordre du dessert. En fait, les viennoiseries, c'était quelque chose qui était consommé de manière assez exceptionnelle et qui se sont banalisées et qui, avec la congélation, avec tous ces procédés industriels, ont pu être proposés tous les jours. Mais c'est professeur Salman qui explique que pour éliminer l'énergie d'un pain au chocolat, c'est 45 minutes de jogging.
Eh oui.
Ah, quand même.
Eh oui, c'est quand même. Oui. C'est pas mal.
Mais moi,
Charlotte.
Manger tôt, le matin tôt quelque chose de sucré, une heure et demie ou deux heures après, on n'est même pas à midi, j'ai à nouveau faim moi aussi. Donc est-ce que c'est si bon que ça?
C'est le piège. C'est les gens qui vous disent qu'ils sont en hypoglycémie, c'est précisément parce qu'ils se sont mis en état d'hypoglycémie.
Donc
mais
pas
normalement...
trop tôt, le petit-déj. Ah,
bah, exactement.
Mais alors, ce que vous dites dans votre livre, et c'est passionnant, c'est que l'agroalimentaire a transformé les ingrédients du petit-déjeuner.
Tiens. Hein,
les céréales, le jus d'orange, ça commence par le jus d'orange sucré. Beaucoup d'ailleurs sont faits à base de concentré aujourd'hui avec du sucre rajouté. C'est des bombes glycémiques aussi, ça.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on a convaincu un certain nombre de personnes qui étaient dans des rythmes, vous avez évoqué, assez rapides, hein, quand vous dites « j'ai pas le temps », ça veut dire qu'en fait, le matin, on n'a pas beaucoup de temps. L'industrie, elle prépare des produits qui sont disponibles le matin quand vous êtes
tout
un peu dans les vapes, là. Vous n'avez pas le temps de choisir. Bon, vous avez des quantités de choses qui sont prêtes en quelques secondes. Donc le grand...
La simplification.
La simplification et puis surtout le caractère véritablement...
addictif.
Et après, c'est effectivement, la deuxième étape, c'est que évidemment ces produits sont un peu trop gras, un peu trop... Il faut quand même... C'est quelque chose qui m'étonne toujours.
Surtout.
Il faut légiférer pour demander aux gens de mettre moins de sucre et moins de gras dans les produits alimentaires. Là, je trouve qu'on
ça,
est quand même...
Ça, c'est les produits transformés, mais je suis en train de penser à tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent sur des chantiers, qui travaillent dehors, qui fournissent un effort. C'est vrai que le petit café juste avant d'aller au boulot, il ne suffit pas quand même. Il faut avoir de l'énergie pour travailler dehors.
Alors,
hein. On n'est plus comme nos grands-parents qui étaient beaucoup au champ. Fait. Il y a une partie de la population sédentaire, mais une autre partie qui est très active aussi.
Alors, une des raisons pour lesquelles effectivement on a poussé à l'obligation du petit déjeuner en début de matinée, c'est nous avons des rythmes sociaux qui nous empêchent de faire un break à 10h du matin. dans les écoles ou ailleurs, on peut pas s'arrêter pour manger.
Alors tiens, à propos des écoles, dans votre livre La Feu sur le Breakfast, là on n'est pas d'accord, Gilles Fumet, parce que vous parlez de Jean-Michel Blanquer qui avait imposé cette collation aux enfants pour pouvoir démarrer la journée à l'école. Il y a quand même pas mal d'enfants qui vivent dans des quartiers défavorisés, qui n'ont pas les moyens, ou les parents n'ont pas le temps et les moyens de leur donner un petit déj, qui arrivent à l'école le ventre vide. C'est quand même mieux d'avoir cette collation-là à l'école que rien du tout, non?
Alors,
ou pas?
Oui, mais pas en début de matinée, comme c'était proposé. Parce que ça perturbait l'ensemble de la matinée, donc on l'a proposé en début de matinée. Voilà. Et on s'est retrouvé avec des gamins qui, effectivement, n'avaient pas mangé, mais d'autres qui avaient mangé.
Qui remangeaient,
forcément.
Oui, faut que tout le monde goûte à la récré, quoi, en gros.
Voilà, l'idée, c'est que tout le monde goûte à la récré et surtout de ne pas s'en faire, parce que moi, j'ai fait des conférences encore récemment dans un lycée où 40% des gamins n'avaient pas pris de petit déjeuner et ne sont pas tombés en syncope devant moi. Je les ai tenus jusqu'à midi. Ils ont des réserves. Je veux dire, c'est pas parce qu'un enfant ne mange pas le matin qu'il n'a pas des réserves suffisantes. Si tant est qu'ils mangent correctement à midi.
On parle beaucoup des lobbies aussi. Il y a toujours ce fantasme des lobbies, mais il y a une réalité quand même. C'est vrai que le lobby, entre guillemets, des produits laitiers a joué un rôle important dans notre façon d'envisager et de programmer le petit-déj.
Ah, le lobby du lait, c'est une puissance. D'autant plus que ce produit est symboliquement très, très valorisant, quoi, parce que c'est le lait maternel, c'est tout ça. C'est le lait des vaches, c'est le lait du chocolat. Donc là, le lobby a joué un rôle...
Dans les céréales.
Un rôle très important, mais d'autant plus regrettable que une grande partie du lait nous vient de vaches qui sont pas nourries à l'herbe. Ce sont des usines à vaches, des usines à lait
en silage.
Voilà, dans silage. Bon, un lait qui a déjà été écrémé, qui est de qualité finalement très très médiocre, mais qui a l'avantage de se mélanger avec des céréales sèches qui sont pas disponibles comme ça à manger et qui de fait fabriquent cette espèce de bouillie qu'on voit dans l'Europe du Nord et jusqu'en Russie où
comme les porridges.
Les porridges, exactement. Voilà, où on peut, avec du lait qui est disponible au réfrigérateur, fabriquer quelque chose qui va nous caler l'estomac.
Mais un porridge de céréales complètes pris à la bonne heure, c'est sympathique, ça, avec bon lait au lait cru.
Tout à fait. Hein, dans une belle datcha russe, voilà. C'est parfait.
Si je dois résumer, en gros, Gilles Fumet, en fait, vous ne dites pas non au petit-déj, oui au petit-déj, mais à condition de le prendre à la bonne heure.
À la bonne heure, voilà, c'est ça. En sachant que, en gros, lorsque nous nous levons, nous avons un système de cortisol qui se met en place, des pics de cortisol qui va se mettre en place et qui va durer en gros 3 heures et qui nous garantit pendant les 3 heures qui suivent notre levée que nous n'avons besoin de rien.
Donc voilà. Si on s'éveille à 7 heures, on peut manger à 10.
Après, c'est parfait.
Et des produits bruts, entiers et non transformés.
Ah, la fameuse confiture dont j'ai entendu parler tout à l'heure.
Votre livre est passionnant. Feu sur le breakfast, c'est très historique. On remonte le temps aussi. On voit comment on mangeait dans nos campagnes, comment les moines mangeaient dans les abbayes, ce qu'on voudrait nous faire avaler avec l'agroalimentaire. Bref, un livre passionnant, Le Feu sur le Breakfast de Gilles Fumet aux éditions Terre Urbaine. Merci Gilles d'être venu.
Merci.